Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Si le cinéma a raconté le destin de Sissi, impératrice d'Autriche magnifiée par Romy Schneider, aucun film n'a été consacré à sa sœur cadette, Marie-Sophie, en Bavière. Pourtant, la vie de cette dernière revêt un caractère épique et romanesque qui n'a rien à envier à l'icône immortalisée par le réalisateur Visconti. Comme sa sœur Sissi, Marie-Sophie Amélie a été élevée en Bavière. Née le 5 octobre 1841, elle est issue de la dynastie des Wittelsbach, l'une des plus hautes lignées du Saint-Empire romain germanique. On a peine aujourd'hui à prendre la mesure de la gloire millénaire qui repose sur les épaules de ces femmes et hommes qui ont tenu durant des siècles le destin de l'Europe dans leurs poings. Et nous avons oublié qu'ils ont donné des souverains au Saint-Empire, à la Suède et même à la Grèce. Quelle a été la vie de cette sœur méconnue, pourtant célébrée par Chateaubriand, Proust et Gabriel D'Annunzio? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode en deux parties. Première partie, la reine soldat. Nous sommes en mars 1858, en Haute-Bavière. Le soleil se couche sur le château de Posenhofen. Marie-Sophie, 17 ans, sixième enfant du duc Maximilien en Bavière et de son épouse Ludovica, ramène à l'écurie le cheval qu'elle monte depuis plus de 3 heures. Le parc, entouré d'une forêt de hêtres, renvoie les feux du crépuscule. Les teintes mauves du ciel viennent s'allier pour un dernier salut au jour au vert tendre de la pelouse qui borde le château. Marie-Sophie passe en revue sa resplendissante chevelure, à peine bousculée par la cavalcade qui l'a menée aux confins du parc. Elle jette un regard empreint de tristesse sur les tourelles du château. Elle sait qu'elle devra bientôt le quitter. Au lendemain des noces d'Élisabeth, la fameuse Sissi, le 24 avril 1854, sa mère, Ludovica, a encore 4 filles à établir. Depuis l'alliance de sa fille avec François-Joseph, empereur d'Autriche, il n'est plus question pour elle d'agréer un gendre médiocre ou inconnu ou insuffisamment titré. Plus question de laisser aux autres filles le loisir de s'amouracher d'un insignifiant. La duchesse a conduit elle-même les négociations qui vont aboutir au mariage de Marie-Sophie avec un descendant de la branche des Bourbons Anjou, le duc de Calabre, fils aîné du roi de Naples et des deux Siciles. Ce dernier entend par cette alliance sortir de l'isolement diplomatique de sa dynastie. C'est un beau parti. Le royaume de son père comprend, outre la plus grande île de la Méditerranée, le sud de la péninsule italienne, c'est-à-dire les Pouilles, la Calabre et la Basilicate. Le mariage est célébré par procuration à Munich dans la soirée du 8 janvier 1859, le fiancé étant absent. 5 jours plus tard, Marie-Sophie quitte Munich avec son frère Louis, quelques dames d'honneur, sa camériste Nina Rizzo et son cher canari dont elle n'a pu se séparer. On passe par Leipzig, Prague, Vienne, puis on prend la route de Trieste. Là, après une cérémonie d'accueil au palais du gouverneur, Marie-Sophie embarque pour Bari. Le roi, la reine Marie-Thérèse, le jeune promis et ses demi-frères et sœurs se portent à la rencontre de la nouvelle duchesse de Calabre. Un voyage long et fatigant qui vaut au roi Ferdinand, le père du marié, la maladie dont il mourra peu après. On a prévenu la princesse que son mari était fort laid. Quand elle l'aperçoit venant au devant d'elle dans son bel uniforme rouge et blanc de colonel des hussards, elle en juge différemment. Elle lui tend la main sur l'étroit escalier du navire royal et lui dit avec une charmante désinvolture « Bonjour François ». Le prince la saisit par les deux mains, lui embrasse le front, avant de lui répondre avec la même simplicité.
« Bonjour, Marie. »
Hélas, le mariage religieux est troublé par l'aggravation de la maladie du roi Ferdinand, dont l'état ne fait qu'empirer. Il s'éteint le 22 mai 1859, léguant à son fils un héritage accablant d'impopularité. Juste avant de mourir, ce même Ferdinand a donné un conseil à sa bru, celui de ne jamais faire confiance à leurs parents de Turin, Victor Emmanuel, le roi du Piémont-Sardaigne. François II, couronné en grande pompe à Caserte le 22 mai 1859, le jour même de la mort de son père, monte prématurément sur un trône au bord du gouffre. Depuis quelques semaines, en effet, dans le nord de la péninsule, les armées de Napoléon III, empereur des Français, et de Victor Emmanuel, roi du Piémont-Sardaigne, affrontent celles de l'Empire d'Autriche. Inexorablement, en effet, l'idée de l'indépendance et de l'union fait son chemin en Italie. En 1859, ce pays, qui a connu une unité éphémère sous Napoléon Ier, n'existe plus. Le congrès de Vienne l'a divisé en une pléiade de villes, de principautés, d'états et de duchés, dont certains sont dominés d'une main de fer par la puissante Autriche. Au sud, le royaume napolitain du jeune Bourbon est de loin le plus vaste. Mais les 20 millions d'Italiens ont été distribués comme des troupeaux à des princes ou petits tyrans locaux, la plupart décadents et sourds aux bouleversements du monde. La vague révolutionnaire qui a secoué la France en 1848 ne tarde pas à faire sentir ses remous. De Budapest à Milan, les hommes et les femmes, de toutes parts, réclament des réformes. Il croit voir venir le printemps des peuples, le printemps de la liberté. Une révolution par jour, peut-on lire alors dans le Charivari, célèbre journal satirique français. À Rome, le pape Pie IX a été déchu de son pouvoir temporel. À Venise, les populations se sont soulevées pour donner naissance à la République de Saint-Marc, presque aussitôt démantelée. Dans le nord, pour faire reculer la domination autrichienne, Victor Emmanuel s'est appuyé sur Napoléon III. L'empereur des Français nourrit un vieux rêve, tourner la page du congrès de Vienne et changer la carte de l'Europe. Son pays est coincé entre les trois grandes puissances qui ont vaincu son oncle Napoléon Ier. À l'est, la Prusse de Bismarck s'emploie à faire de la Fédération germanique un nouvel empire allemand. À l'ouest, la reine Victoria d'Angleterre plastronne à la tête de la première puissance industrielle du monde. Et au sud, l'immense empire des Habsbourg n'en finit pas de s'étendre de Milan jusqu'à Prague. Louis-Napoléon espère ravir la place prédominante de l'Autriche dans la péninsule italienne et consacrer ainsi la Renaissance française. Pour mettre au pas le sud de l'Italie du jeune François II, la carte du roi piémontais Victor Emmanuel est Garibaldi. Pour donner à la cause italienne une solution monarchique, il s'est résolu à pactiser avec ce révolutionnaire pour mieux s'approprier ultérieurement ses victoires. Il sera bien temps de contenir la révolution après l'avoir déchaînée. Le moment venu, il lui suffira de se poser en pacificateur qui vient rétablir l'ordre. Dès le mois de mai, Garibaldi a décrété la déchéance du roi de Naples et s'est autoproclamé dictateur de la Sicile, avant d'annoncer vouloir traverser le détroit et poursuivre son chemin jusqu'à Rome. Ainsi, François et Marie-Sophie, qui ne sont pas sur le trône depuis 13 mois, que Garibaldi, à la tête de ses fameuses chemises rouges, arrive devant Naples. Chassés de la ville, le roi et la reine des deux Siciles se réfugient avec leur cour dans la forteresse maritime de Gaète, à mi-chemin entre Rome et Naples, sur la côte tyrrhénéenne. La sœur de Sissi a assisté furieuse et impuissante à l'irrésistible poussée du condottiere, c'est ainsi qu'on appelle Garibaldi. Et tandis que le seul roi légal des États napolitains, François, son mari, a commencé à organiser sa défense, laissant tomber Naples aux mains du hardi condottiere Garibaldi, Victor Emmanuel est rentré lui-même dans la ville au milieu des drapeaux à la Croix de Savoie. Les jeunes souverains défendent leur dernière ville dans une lutte désespérée. Un mois après leur arrivée dans ce dernier rempart, ont commencé les 102 jours d'un siège terrible, dont 75 passés sous le feu ennemi. Des Italiens ont pour adversaires des Italiens. Les assiégeants, 16 000 piémontais, ont installé leurs batteries sur les positions formidables des Capucins et de Santa Agata pour déloger les 11 000 hommes des dernières armées royales. Ni au physique ni au moral, le roi François II ne se sent taillé pour la guerre. Surtout, son suprême appel au souverain d'Europe n'a eu aucun effet. Personne ne viendra à la rescousse de sa royauté aux abois. Pour toute réponse, les chancelleries ont renvoyé des vœux stériles ou de froides sympathies. Une seule voix s'est élevée aux Tuileries pour lui venir en aide, celle de l'impératrice Eugénie. Elle trouve odieux qu'on refuse un bout de corde au noyé qui s'enfonce sous l'eau. Le courage du monarque l'abandonne. Il ne supporte plus ni le cri des mouettes ni les bourrasques qui rendent leur son plaintif en s'engouffrant dans les corridors du vieux château. Agaët, c'est donc Marie-Sophie qui devient l'âme de la résistance. Ici, elle s'est transformée en soldat, abandonnant ses somptueuses crinolines pour revêtir une amazone couverte par un grand manteau calabrais. Cette image d'elle, ainsi vêtue, fait le tour du monde. La presse internationale suit au jour le jour l'agonie du royaume des deux Siciles. Fascinée par cette jeune femme au courage insensé, Eugénie, l'épouse de Louis-Napoléon Bonaparte, a fait part de son vif désir d'en apprendre davantage sur la physionomie de cette étonnante souveraine de Naples. Les photographes ayant fui Gaët, on a dépêché sur place l'un de ses artistes. Ainsi, l'héroïne a-t-elle pu envoyer à Sa Majesté impériale un portrait d'elle où on la voit dans le costume semi-militaire qu'elle a adopté pour passer en revue les soldats et les batteries. Chapeau hongrois à plumes, robe blouse avec ceinture de cuir, pantalon bouffant à la turque et bottes molles. De l'aube jusqu'à la nuit, elle est sur les remparts, excitant la valeur des troupes par sa présence, s'associant à leur fatigue et presque à leur combat. On la voit avec son chapeau à plumes vertes se faufiler entre les batteries, défier l'ennemi au milieu des bombes incendiaires, allumer la mèche des canons avec le feu de sa cigarette d'Orient, haranguer la foule avec le drapeau blanc fleur-de-lysée des Bourbons. Sur son passage, les canonniers quittent leur pièce et se jettent à genoux pour baiser le bas de sa robe.
« Et la Madonna dell'Obbizzo !»«
C'est la Madone des boulets !» clament les artilleurs. Les Piémontais ont jeté des charognes d'animaux dans les pluies pour les contaminer. Début décembre, le typhus, la dysenterie et la disette commencent leur ravage. Plus de 800 malades luttent, languissant. Il meurt journellement des dizaines de personnes. Les cimetières sont hors les murs et l'on ne sait donc plus que faire des cadavres qui sont évacués sur des tombereaux vers des charniers improvisés. À Naples, on a créé des excursions touristiques pour aller contempler la boucherie de Gaët. Deux navires, le Thames et le Princess, partent alternativement chaque soir à minuit de la capitale. Et pour quatre ducats, les amateurs de sensations fortes peuvent aller admirer ce que M. Proudhon appelle la sublime horreur de la canonnade. Trois jours plus tard, le 5 février 1861, vers 3 ou 4 heures de l'après-midi, c'est le coup de grâce. Les canons piémontais tirent sur la plus importante poudrière de Gaët. L'entrepôt de munitions Saint-Antoine explose. Plus de 300 artilleurs et civils sont tués et l'on compte 400 blessés. À la place du bastion, On ne voit plus qu'un immense gouffre rempli de cadavres, de restes humains et de blessés hurlant. Bravant le danger, Marie-Sophie accourt aussitôt. Elle erre comme un fantôme parmi les ruines fumantes. 8 jours après la terrible explosion, c'est la reddition. En décembre, François avait affirmé à Napoléon III vouloir mourir dans la place.
« En succombant avec courage, avec honneur, je resterai digne du nom que je porte. »
Mais à quoi bon? La ville n'est plus qu'un monceau de gravats. L'artillerie est hors service. Il n'y a plus ni munitions, ni vivres. On dénombre 1500 malades du typhus. Le roi a poussé sa résistance aussi loin que l'exigeait la dignité de sa couronne. Le soir de la capitulation, François remercie ses officiers jusque tard dans la nuit. Le lendemain, 14 février 1861, c'est un matin gris. À 7 heures, avant que les piémontais du roi Victor Emmanuel ne prennent possession de la ville, de leur ville, leurs majestés sortent de leur casemate et traversent une allée formée par une chaîne de soldats napolitains. Ces hommes en pleurent, déguenillés, exténués de fatigue, présentent une dernière fois les armes à leur souverain. François II passe en revue ses troupes. Marie-Sophie arbore un sourire triste et doux. Les tambours battent au champ, les drapeaux déchirés, maculés de sang, s'inclinent. Marie-Sophie, amaigrie, marquée, s'arrête à chaque pas pour répondre à ces braves gens qui veulent lui dire adieu et baiser ses mains. Puis les souverains et leur suite rejoignent la mer par un chemin escarpé. Ils embarquent sur la Mouette, un vapeur français détaché de l'escadre du contre-amiral Le Barbier de Tinan. Pour la première fois, de grosses larmes coulent le long des joues de Marie-Sophie. Elle s'isole à l'arrière, appuyée au bastingage, contemplant les rochers déchiquetés de Gaète. À quoi pense-t-elle? À sa couronne perdue? À la sauvagerie des hommes? Non, elle songe avec mélancolie aux forêts de la Franconie de son enfance. Mais quelle sera sa vie après cet épisode tragique? Où ce couple royal déchu va-t-il trouver refuge? C'est ce que vous découvrirez dans la seconde partie de cet épisode consacré à Marie-Sophie, l'extraordinaire sœur de Sicile.